Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Filions de l'Histoire. Nous savons assez peu de choses sur son enfance et la légende s'en est emparée. Je vais vous parler de Charlemagne. Ses ancêtres nous sont connus. Il s'agit d'une grande famille, fortunée. Un nom au moins ressort, celui de Charles Martel, le grand-père. Il a consolidé, lui, l'union de l'État franc et l'a arraché à la convoitise des Sarrasins, vous vous souvenez, de Poitiers. Le papa, Pépin le Bref, a fait entrer l'Aquitaine dans le royaume. Alors, comment se présente l'État franc qu'en est Charlemagne? Il se compose de trois royaumes. L'Austrasie, la Neustrie, la Bourgogne, c'est-à-dire pratiquement toute la France, plus l'Aquitaine. Et puis, au-delà du Rhin, il y a ce qu'on appelle l'Allemagne, des territoires entre la Saxe, le Danube, le Rhin et la Saale. Autrement dit, c'est quand même un territoire assez étendu. Les annales que nous possédons ont très peu de dates. Alors, on a un chroniqueur quand même, Égina, il était déjà le chroniqueur de Pépin le Bref. Il nous permet quand même de nous assurer de certains faits. Il a vécu donc sous les deux règnes, Pépin le Bref, Charlemagne, et même après un petit peu sous le règne du fils de Charlemagne, Louis le Pieux. Bon alors, on revient à Charlemagne. Son père, c'est donc le roi Pépin le Bref. Petit. Ou alors, c'est le mot bref, ou alors, ça voulait dire aussi peut-être près de ses sous. Sa mère, c'est Berthe, ou quelquefois on entendra Bertrade. Elle est originaire de la région de Laon, dans l'Aisne. Il a deux frères, Carloman et Pépin, mais Pépin, il meurt en bas âge. Alors, où est-il né? Beaucoup de gens croient qu'il est né à Aix-la-Chapelle. Non, d'après les résidences de Pépin, ce peut être dans l'une de celles qu'il avait au bord de l'Oise. Mais on ne sait pas laquelle. Par recoupement, on arrive à savoir quand même qu'il est né le 2 avril 742. Sa mère, donc Bertrade ou Berthe, prend soin de sa première éducation, une éducation extrêmement religieuse. Le restant est tout à fait négligé. Pour Pépin, l'essentiel, c'est qu'ils combattent bien et qu'ils connaissent les choses du gouvernement. C'est ainsi que lorsque le pape Étienne II passe les Alpes en décembre 753 pour demander secours aux Francs contre les Lombards, Charles se rend au-devant de lui pour le conduire au palais. La rencontre a lieu le 6 janvier 754. Pépin se prosterne devant le pape. Ça a beaucoup frappé Charlemagne. Dans l'oratoire du palais, c'est au tour du pape de se jeter aux genoux du roi. Alors pourquoi? Tout simplement, c'est pas parce qu'il honore le roi, c'est parce qu'il l'implore, n'est-ce pas, de lui venir en aide. On décide alors de devenir une aide pour le pape. Et le 14 avril, Charlemagne est présent à l'entrevue de Quierzy, il faut s'en souvenir de ce nom-là, de ce village, au cours de laquelle Pépin promet de céder au pape à perpétuité diversité et territoire d'Italie. Et avant de repartir, le pape Étienne II donne l'onction royale. Ça, c'est important, parce que ce sera un roi de droit divin, puisqu'il a été oint par le pape. Donc, il donne l'onction royale à Pépin, le roi actuel, mais aux deux fils aussi, c'est-à-dire à Charles et à Carloman. Vers le mois de juillet 768, Pépin tombe malade. Il est à Saintes, il remonte par Poitiers, par Tours, où il fait beaucoup de mône, et il demande même l'aide de Saint-Martin, qui vivait à la même époque. Il termine son voyage à l'abbaye de Saint-Denis. En septembre, il fait venir les grands dignitaires, et devant eux, il partage ses états entre ses deux fils. Oui, parce qu'à l'époque, ce n'était pas la coutume de donner tout le royaume au fils aîné, comme ce le sera plus tard. Donc, autant d'enfants, autant de partage. C'est un petit peu ennuyeux, mais c'est comme ça. Charlemagne, lui, il reçoit un vaste demi-cercle depuis la rivière la Saale, qui se trouve en Allemagne actuellement, jusqu'aux Pyrénées. Il longe même la mer du Nord, la Manche, la mer Baltique. puis son frère, il a le reste. Alors, disposé ainsi, le royaume de Charlemagne, qu'on va appeler Charlemagne après, hein, ça veut dire Charles le Grand, hein, il entoure aux trois quarts, finalement, il entoure tout à fait le royaume de son frère. Bien. Pépin décède le 24 septembre 768. Il est enterré dans la basilique Saint-Denis. Chacun des frères, donc, devient roi d'un royaume. Hein. Charles, chacun a donc une capitale. Charles, sa capitale, c'est Noyon. Noyon, c'est dans l'Oise. Et Carloman, c'est Soissons, dans l'Aisne. Alors voilà que l'Aquitaine veut se séparer du royaume. Pépin le Bref avait réussi à la mettre dans le royaume. Alors, un certain Inald veut soulever l'Aquitaine et la Gascogne. Charles décide alors de prendre la route du Midi. Il compte sur l'aide de son frère, mais le frère, il dit « Ah ben non, moi ça m'intéresse pas du tout ». Donc, il descend tout seul. Il part quand même avec son armée. Inald se sauve alors, il a peur, en Gascogne. Charles construit alors un château à Fronsac. Il existe toujours. Hein. Il y établit une garnison et dit au duc, dont le prénom est Loup, qu'il restera là jusqu'à ce qu'il lui livre Inald. Eh bien, il le fait. L'Aquitaine alors se le tient pour dit, si bien que Charles remonte chez lui et il gouverne son royaume. Alors, il se trouve à ce moment-là devant le problème des Lombards. Le roi des Lombards, qui s'appelle Didier, ne respecte pas les accords de Chierzy, où on avait dit qu'on allait donner au pape un certain nombre de villes italiennes. Charles, alors, promulgue ce qu'on appelle un capitulaire. Un capitulaire, c'est un édit, un document législatif, et il est partagé en chapitres, d'où le nom de capitulaire. Et il s'intitule dans ce capitulaire « Défenseur dévoué et auxiliaire de la Sainte Église ». L'ennuyeux, c'est que la maman va lui jouer un tour. On ne sait pas trop s'il est au courant. Elle part toute seule en Italie. Enfin, quand je dis toute seule, c'est avec sa suite, bien sûr, mais sans ses fils. Hein. Elle part toute seule en Italie. Elle rencontre le roi des Lombards, Didier. Ils parlent ensemble de mariage et elle ramène la fille du roi des Lombards pour lui faire épouser Charles. Alors, c'est quand même bien ennuyeux, parce que ça fait une situation bizarre, parce que les Lombards s'opposent au pape, Charles est le soutien du pape, mais il va épouser la fille du roi des Lombards. Alors, il l'épouse, il répudie la première femme qu'il avait, hein, avec laquelle il avait eu un fils, Pépin, un fils d'ailleurs qui était mal formé, il était bossu. Il portera évidemment le nom de Pépin le Bossu. Mais il ne va pas succéder à son père. Alors, le mariage a lieu à Mayence, aux fêtes de Noël 770. Donc, je vous ai dit, elle a joué un tour à son fils. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Charles a promis de soutenir le pape. Or, par son mariage, il devient le gendre du roi des Lombards. Lesquels sont les ennemis du pape? Alors, c'est une situation tellement compliquée que finalement, Charlemagne répudie la fille du roi des Lombards. C'est déjà sa deuxième femme. Hein. Il fait ça en 771, donc le mariage durait un an, c'est tout. Il la renvoie à faire. Et il a déjà en vue quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Hildegarde, ce sera son grand amour. Elle n'a que 13 ans à l'époque, mais ça fait rien. À 13 ans, on se marie à l'époque. Hein. Pépin a cru, lui, qu'en partageant son royaume, il allait assurer la paix entre les deux frères. C'est raté! Nous allons faire une première pause musicale. nous sommes sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Charlemagne et je vous dis qu'il ne s'entendait pas du tout avec son frère Carloman. Ils s'entendent pas vraiment, hein, ils ont des vues politiques différentes. Le 4 décembre 771, eh bien Carloman meurt subitement, on ne sait pas de quoi. Il est enterré à Reims, il laisse une veuve, deux enfants en bas âge. Savez-vous ce que fait Charlemagne? Ça c'est surprenant, hein, mais c'est l'époque sans doute, hein. Eh bien, il se saisit du royaume de son frère. Et la veuve, qui s'appelait Gerberg, et avec ses enfants, elle s'enfuit en Italie. Savez-vous chez qui elle s'enfuit? Chez les Lombards. Bon, il semble que les Francs de Carloman, bon, ont bien pris la chose. Un roi ou un autre, ça n'avait pas d'importance. Alors pour l'instant, Charles, il obéit encore toujours à sa mère. C'est une forte femme, hein. Et en 2 ans, finalement, il a répudié 2 femmes. Alors que Charlemagne, donc, il est le seul roi des Francs, du royaume franc, il y a un nouveau pape qui est élu. C'est Adrien, Adrien Ier. C'était un homme pieux, de mœurs pures, très aimé du peuple, un homme, en plus, qui sait ce qu'il veut. Le roi des Lombards, Didier, il est toujours décidé à saisir les biens pontificaux. Alors une armée lombarde arrive aux portes de Rome. Le pape Adrien envoie un appel au secours, par voie de mer, hein, envoie un appel au secours au roi des Francs. Alors qu'est-ce qu'il va faire Charlemagne? Il a répudié la fille du roi Didier. Ce dernier a recueilli la veuve de Carloman avec ses 2 enfants. Et puis c'est un roi puissant Didier, et puis il a une très bonne armée. Eh bien, ça ne fait rien. Charles part en guerre quand même. Fin 773, l'armée franque arrive devant la ville de Pavie. Il y met le siège, il y laisse une grande partie de son armée et il arrive devant Vérone. Ben, Vérone lui ouvre carrément ses portes. Il se dirige alors à ce moment-là vers Rome. Le roi veut, à l'occasion des fêtes de Pâques, prier au tombeau de Saint-Pierre, dit-il. Pendant 4 jours, Adrien et Charlemagne participent ensemble aux cérémonies. Et puis, il repart, Charlemagne, à Pavie. Le roi lombard sort de la ville avec sa femme et une de ses filles et fait soumission à Charlemagne. Finalement, ce dernier quitte l'Italie sans avoir eu besoin de combattre. Il décrète alors, franchement, que le royaume lombard lui appartient. Et il devient le roi des Francs et le roi des Lombards. Charlemagne laisse alors une garnison à Pavie. Didier est exilé au monastère de Corbie, c'est là qu'il mourra. On ignore ce que sont devenus la veuve de Carloman et des enfants. À peine Charles revenu chez lui, une révolte évidemment éclate en Lombardie. Il y a des familles qui ne sont pas du tout contentes d'avoir comme roi le roi Charlemagne. Alors que fait-il? Ben, il redescend avec une armée et il rétablit l'ordre. Alors maintenant, il lui faut faire face à un autre ennui. Les rapports entre les Francs et les Saxons ne sont pas au beau fixe depuis très très longtemps. L'état de guerre est presque permanent, les frontières ne sont pas très bien délimitées. Quand Charles est devenu roi, il n'y a pas de conflit depuis 15 années. Et c'est lui qui lance la guerre en 772. Il faut dire que les Saxons ont brûlé des églises. Ça n'a pas plu du tout à Charlemagne. Et ça se termine comment ? Ben, je pense que vous le devinez, victoire de Charlemagne. Une grande quantité de Saxons même se convertissent au christianisme. On possède des portraits figurés de Charlemagne à ce moment-là, des pièces de monnaie et le témoignage des Ginards. Alors, je vais vous donner un petit peu des détails sur Charlemagne, des détails physiques et des détails moraux. On a analysé les ossements. Ça nous donne une taille entre 1,92 m et 2,04 m. Sur les monnaies qu'on a retrouvées, il n'a pas de barbe. Les Francs du 8e et du 9e siècle se rasent. Il a des membres puissants, une tendance à l'embonpoint, des cheveux abondants, un nez un peu long et une très grosse moustache. De grands yeux vifs, un air d'autorité et de dignité. Alors il pratique beaucoup de sports, l'équitation, la natation, et sa grande passion, c'est la chasse. Il se déplace beaucoup. il jouit d'une santé excellente, il mène une vie bien réglée, il passe les mois d'hiver au repos. Il entend la messe tous les jours, il a un bon coup de fourchette, il fait une sieste de 2 à 3 heures. Il s'habille comme un simple franc, mais lorsqu'il y a des cérémonies officielles, quand même, il embellit les choses. Charles donne beaucoup, beaucoup d'importance à sa famille. Elle est nombreuse, en dehors de sa mère, d'un oncle, de cousins, qu'il a toujours autour de lui, d'une sœur qui est religieuse, il s'est marié 5 fois. La première femme, Imiltrude, lui avait donné un fils, donc Pépin le Bossu, mais la fille du roi des Lombards, il n'a pas eu d'enfant avec elle. C'est la troisième, celle qu'il a épousée quand elle avait 13 ans, la Hildegarde, qui lui donne 4 fils et 5 filles. Il aura ensuite une autre femme de délicate qui va mourir rapidement. Et puis la dernière, très belle, très charitable, très dévote, mais qui ne lui donnera pas d'enfant. Alors, il se sépare le moins possible des enfants. Il est très dominateur. Par exemple, de ses 5 filles, il leur interdit de se marier. Alors, si bien qu'il y en a 2 qui vont le faire, mais secrètement. Alors, un autre trait de caractère de Charlemagne, c'est sa piété. Ça, c'est vrai. Elle ne s'est jamais démentie. Il assiste à la messe et aux offices. Il chante avec les fidèles. Il remercie sans arrêt le ciel de tous les bonheurs qui lui arrivent. Il se fait composer même un petit livre où il y a dedans tout ce que un bon chrétien doit respecter. Il jeûne. Pour lui, la charité va avec la religion. Ses amis, ses fidèles, le clergé, tout ça, ça doit prier pour lui, pour sa femme, pour ses enfants et pour la stabilité du royaume. Il s'instruit dans les Écritures divines, il a une grande curiosité d'esprit, si bien que, comme il a eu une enfance assez peu scolaire, et il aime bien la compagnie des savants, il se rend compte finalement que son éducation a été tout à fait négligée, si bien qu'il cherche des professeurs pour rattraper le temps perdu. Dans son royaume, il n'y en a pas. Alors, il ramène d'Italie des grammairiens, par exemple Pierre de Pise ou Paul Diacre. En 781, il fait venir un noble anglais, Alcuin, qui possède une science encyclopédique. Non seulement il possède cette science-là, mais il sait très bien la transmettre. Nous allons faire une deuxième pause musicale.
Visus est ec filio.
Donc Charlemagne, dont je vous parle, sur Radio Grand Ciel, décide de se mettre à l'école finalement, puisqu'elle a été très très négligée quand il était jeune. Alors, à l'âge de 40 ans, il acquiert finalement ce qu'on appelle la rhétorique. La rhétorique, c'est l'action de bien parler, hein. La dialectique, c'est le fait de savoir argumenter, hein. L'arithmétique et l'astronomie, vraiment, qui le passionnent. Il possède une bibliothèque importante, il parle le latin, il comprend le grec, il a bien rattrapé le temps perdu. Hein. Il est aimable et modeste, très bienveillant, sa générosité est universellement connue. À tout ça, ça s'ajoute quand même une volonté tenace. Il réussit à cacher ses rancœurs sous une impassibilité apparente. Sans se laisser détourner de son chemin, il le poursuit résolument. Tout ça pour dire que finalement, il est assez têtu. Il a tout un programme de gouvernement. Toutes les mesures qu'il ordonne doivent être réalisées tout de suite. Et nul n'a le droit de contrarier sa volonté. Tous les habitants du royaume, à partir de l'âge de 12 ans, doivent lui prêter un serment de fidélité. On peut dire que Charlemagne, finalement, est un roi absolu. Il est le législateur, c'est le juge suprême, c'est lui qui décide de la paix et de la guerre, c'est lui qui commande l'armée, qui nomme et révoque tous les fonctionnaires. Et en plus d'absolu, sa royauté est sacrée. Alors vous vous souvenez, tout à l'heure je vous ai dit, le pape Étienne II lui a donné l'onction sainte à l'abbaye de Saint-Denis. Il est peu enclin à partager son pouvoir, personne n'a d'influence prépondérante sur lui. Il n'a jamais eu, par exemple, de ministre principal. Il n'a jamais eu de favori, et j'ajouterais, ni de favorite. Son royaume, devenant de plus en plus important, il a besoin d'auxiliaires dévoués. Alors il peut compter sur les membres de la famille royale, sur ses amis, sur des vassaux royaux. Pour gouverner et faire la guerre, il faut de l'argent. Donc, voilà comment l'argent rentre. Écoutez ça. Des impôts, c'est ce qu'on appelle le cens royal, établi sur les personnes et les terres. Les douanes, qui sont payantes, les péages à l'entrée des ponts et des ports, le long des cours d'eau et des routes, des dons annuels acquittés par tous, mais aussi, il a de l'argent par la confiscation des biens des déserteurs et des sacrilèges. Il a aussi des trésors qu'il découvre et lui, il en a une grosse partie, les deux tiers. Les butins de guerre, quand il a gagné, il revient évidemment avec des butins. Un tribut payé par les nations qui se sont soumises. Donc chaque année, Charlemagne reçoit de l'or, de l'argent brut, des céréales, du sel, des fourrages, des chevaux, des bœufs, des porcs, des armes, des boucliers, des casques, des harnais, des freins en or, des vêtements brochés, des pierres précieuses. Et à tout ça, il faut ajouter l'exploitation de ses propriétés dans toute l'étendue du royaume. C'est le plus grand propriétaire de son royaume. Alors en résumé, on peut dire il est prodigieusement riche. Revenons au gouvernement. Charles a des conseillers, mais il ne les convoque que s'il le juge à propos. Et après les avoir entendus, il décide tout seul. Je vous ai dit tout à l'heure que Charlemagne a vaincu les Lombards et les Saxons. Eh bien voilà que les ennuis surgissent de ces deux territoires. En Italie, les grandes familles sont hostiles à cet étranger qui veut imposer sa loi. Et puis il faut ajouter ça un grand malentendu entre Charlemagne et le pape Adrien. En 774, le roi a donné au pape des territoires, mais 4 ans après, Ses lettres mortes, il a toujours pas reçu les territoires. Adrien alors attend Charlemagne à Rome pour lui parler un petit peu de ses territoires qu'il n'a pas eus. Il ne vient pas. Et il semble complètement oublier ses promesses, Charlemagne. Il a même une attitude agressive. Il accuse les Romains, donc bien évidemment le pape, de vendre des chrétiens aux Sarrasins. Alors Adrien se fâche. Il répond vertement que ce sont les Lombards qui ont agi ainsi, et pas les chrétiens du tout. Et puis en Saxe. Charles ne craint rien du côté de la Saxe. Il dit « Oh, tout va bien ». Oui, mais dans l'ombre, il y a un homme qui se prépare à s'opposer à Charlemagne. Il s'agit de Witikind, d'origine illustre. Il veut soulever les Saxons. Oui, mais pas comme l'a fait Vercingétorix. Si vous vous souvenez, Vercingétorix, qui a soulevé les Arvernes, il a pris la tête des soldats, il a combattu vaillamment. Tandis que Witikind, lui, il ne veut pas faire ça. On ne sait pas si c'est par peur. En tout cas, il agit par ruse et pendant 8 ans, il va agiter la Saxe. Charles ne se rend pas compte du danger et il dit « Ah, eh bien, je vais partir mener contre les Arabes d'Espagne une grande expédition. » Ben oui, parce que les chrétiens d'Espagne souffrent de la domination musulmane et ont appelé Charles au secours. Alors, il rassemble une armée, il part pour les Pyrénées. Allons faire une troisième pause musicale. Sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Charlemagne qui décide de partir pour les Pyrénées. Et là, ça va vous dire quelque chose. Il fête Pâques le 19 avril 778 au confluent de la Garonne et du Drô, direction l'Espagne. Le passage des Pyrénées est difficile. Il faut passer à travers la Navarre. Il y arrive. Et il arrive même devant Pampelune. Les choses commencent bien parce que Pampelune se rend. Deux gouverneurs arabes même se soumettent. Charlemagne, alors, pense qu'il va s'installer à Saragosse. Il arrive devant les murs de la ville. Ah oui, mais hélas, l'armée franque est repoussée. C'est alors qu'arrivent de Saxe des bruits fâcheux. Si bien que Charlemagne dit « Bon, ça va bien, je laisse là l'Espagne et je rentre. » Et oui, malheureusement, quand il est passé la première fois là, les Basques n'ont pas vu d'un très bon œil ce passage vers l'Espagne. Comment il ose traverser notre territoire sans en demander la permission? Ils se sentent menacés, d'ici, s'il attaque l'Espagne, il va nous attaquer nous aussi. Donc, ils décident, ces Basques, d'attaquer l'armée franque au retour. Ils se dissimulent derrière les arbres des crêtes. Puis, lorsque l'arrière-garde, qui est encombrée de bagages, s'engage dans la vallée de Roncevaux, eh bien, les Basques se ruent sur elle. Les soldats de Charlemagne sont massacrés jusqu'au dernier. Et malheureusement pour Charlemagne, qui justement voulait faire demi-tour et combattre les Basques, il ne les retrouve pas, les Basques, parce que ils ont disparu, ils se sont égayés. Tout ça, ça se passait le 15 août 1678. Charlemagne est complètement bouleversé, mais il prend quand même la direction du nord, ça ne servira à rien puisque les Basques ont disparu. Il arrive à Auxerre, et là, il apprend que les Saxons, profitant de son absence, ont brûlé Carlsbourg, ont remonté le Rhin, sont arrivés au confluent de la Moselle, en ravageant tout. Charlemagne, encore une fois, maîtrise son émotion. Il remet à plus tard son règlement de compte avec les Arabes et il va s'attaquer aux problèmes saxons et italiens. Au revoir à tous, vous saurez la suite la prochaine fois.
Osteniferi conditor orbis qui per patuo mixus olio rapido celum turbine versas thank you. si